Bonsoir. Et bonsoir. Lorsque Akadosh Baruch Hou a parlé avec Moshe au tout début de la shlichut de Moshe, au tout début de l'envoi par Hachem de Moshe pour sortir les Bnei Israël. Technique. Il lui a dit la preuve que effectivement c'est moi qui t'envoie. Zelecha haot. Qui anochi shlachticha, bo'otziyacha et ha'am, quand tu vas faire sortir le peuple, ta'avdun et ha'elokim al ha'arazé. Vous allez servir Elohim sur cette montagne. La montagne dont on parle ici, c'est le Sinaï, parce que quand Hachem a parlé pour la première fois avec Moshe, Moshe était autour du Sinaï, c'est là-bas qu'il a vu ce fameux buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas. Donc il lui a donné une promesse que au moment, après qu'il soit sorti d'Égypte, ils allaient servir Hachem sur le Har Sinaï. Dans le Rambam, dans Hilchot Yesodé à Torah, le Rambam va dire quelque chose dont le Meshech Chochma va dire que c'est la preuve que ce que le Rambam dit ici a été dit par le Ruach HaKodesh. Qu'est-ce que Rambam dit? Il dit au début, mon cher Rabbeinu, les Bnei Israël ne le croyaient pas. Ils ne lui faisaient pas confiance. Et que, en fait, ils ne lui ont jamais fait confiance parce que mon cher Rabbeinu a montré des signes, toutes sortes de signes qu'il leur a montrés, qui sont, a priori, qui étaient là pour entraîner la confiance. Ça n'a jamais marché. Et Rambam dit pourquoi? Parce que chez un ma'amin al-pi ha'otot, celui qui fait confiance parce qu'il a vu des signes qui sont là pour marquer la confiance, yesh belibo dofi. Il y a une ambiguïté dans son cœur. Makom le safek. On n'est pas vraiment persuadé. Et c'est pour ça que mon cher Rabbi nous a dit, que effectivement, la Emouna qu'ils auront, c'est un dofi, c'est-à-dire, ils ne me croiront pas vraiment. Parce qu'en fait, ça n'est pas vraiment une preuve. Alors c'est pour ça qu'Hachem lui a dit, Zelecha haot. Je te donne quelque chose qui est un vrai signe. Ta'avdun et ta'elokim al-ha'arazé. Sur le Sinaï. Et dans au Sinaï, ils verront bien que tu es mon avis, que tu es mon prophète. Vous savez bien que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, au Sinaï, il lui a dit, je vais mettre les Bnei Israël dans une position où ils vont pouvoir vérifier que je te parle. C'est-à-dire que au moment des deux premières paroles, parce que les Bnei Israël n'en ont pas voulu plus, mais quand Hachem a parlé à Moshe, Les Bnei Israël ont vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils étaient à une hauteur où ils pouvaient constater qu'Hachem parlait avec Moshe. Et Hachem a dit à Moshe, je vais te parler pour leur montrer qu'ils peuvent te faire confiance. Alors la première question que pose, c'est un texte que je vois avec vous, c'est un texte de Rabbi Jonathan Davis, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Pachad Yitzhak, qui était le gendre de Rabbi Yitzhak Koutner. Et il pose la première question et il dit, pourquoi? Quand on parle de Matan Torah, pourquoi est-ce qu'on parle de Avoda? Qu'est-ce qui est dit dans le texte? Le texte dit Ta'avdun et Ta'elokim à la harazé. Vous allez servir, vous allez faire la Avodat Hashem. Mais il n'y a pas eu d'Avodat Hashem sur le Sinaï. Au Sinaï, les Bnei Israël ont accepté la Torah. Mais ils n'ont pas fait de avoda. Ça, c'est une première question. Pourquoi justement avoir formulé les choses de cette manière-là? Et par la suite, les autres prophètes, les gens qui vont devenir prophètes après Moshe. Comment on saura que ce sont de vrais prophètes? Alors dans la halakha, il est rapporté que ils vont devoir produire des otot, ils vont devoir produire des signes. Mais ça n'est pas que sur les signes qu'on va les croire, mais des signes vont être demandés. La raison pour laquelle on va leur faire confiance, c'est parce que dans le passouk, c'est marqué Elav Tishmeun. Lui, vous l'écouterez. Ça veut dire que quelque part, la chose va démarrer avec Moshe Rabbeinu. Et donc, il va y avoir une transmission de la qualité de Navi. Donc, ultimement, pourquoi est-ce qu'on va croire un Navi? Alors, c'est comme si on disait, pour se qualifier, pour qu'on envisage de savoir si on va le croire ou pas, il va devoir produire certains otot, certains signes. Mais en fait, une fois que on jugera qu'il est acceptable, alors, il faudra lui obéir, pas parce qu'il a apporté des signes, mais parce que lui, vous devez l'écouter, parce qu'il fait partie de la chaîne qui commence avec Moshe Rabbeinu. En d'autres termes, si vous voulez, il y a une chaîne de Nevi'im qui part de Moshe Rabbeinu, de la même manière qu'il y a une chaîne de transmission de la Torah orale qui est citée dans Pirkei Avot, justement. Comme Moshe Kibel Torah Misinaï, ou Messara, le Yoshua. Il a transmis à Yoshua, qui l'a transmise, etc. Donc là, on nous parle d'une chaîne de transmission du contenu de la Torah orale. Il y a aussi, visiblement, une chaîne de transmission de la prophétie. Pour être prophète, il faut être authentifié par des gens qui sont des prophètes. Mais eux-mêmes, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont des prophètes? Parce que la génération d'avant, et on remonte ainsi jusqu'à Moshe Rabbeinu. Pardon? Il y a des écoles pour se qualifier, pour apprendre à faire des signes, etc., et pour voir si les gens méritent de le devenir. Mais j'ai toujours dit que dans ces écoles, l'école ne garantit pas le placement. D'accord? Ça ne vous garantit pas un job. Il y a des écoles comme ça qui vous disent, l'école vous garantit que vous aurez un travail. Là, cette école, les écoles de prophètes ne garantissaient pas qu'on va devenir prophète. On leur apprend d'abord de la Torah, on leur apprend toutes sortes de choses, et je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on leur apprend parce que j'y étais pas et que je ne connais pas le programme, mais on leur apprend effectivement tout ce que doit connaître un Navi, un prophète, et après Rambam en tout cas, un prophète doit être un Talmid Chacham.
Choisi par Hachem, c'est un très bon élève.
C'est choisi par Hachem parce que, si vous voulez, le choix d'Hachem se fait dans la mesure où les prophètes reconnus le reconnaissent, lui. D'où est-ce qu'ils savent, eux? Quelque part, ils ont une certaine inspiration qui fait qu'ils se reconnaissent, ils le reconnaissent comme quelqu'un, oui. Lui, il a les qualités de prophète. Moshe Rabbeinu, il savait très bien que Yoshua et Caleb, c'était deux qui allaient bien réussir, ils vont pas tomber dans le piège des Meraglim, mais il a très bien compris que Yoshua, il fallait lui changer son nom pour qu'il arrive à tenir le coup à Caleb. Il n'est pas intervenu dans Caleb. Il savait ou il a compris, il a eu confiance que Caleb allait faire de lui-même ce qu'il fallait pour qu'il puisse se qualifier. C'est-à-dire, Caleb est allé prier, il s'est rattaché aux Avot, il est allé prier chez les Avot, sur la tombe des Avot.
Peut-être ça passe une bonne nature, une bonne.
Et
Il a été prié, il a voté. Ça prouve qu'il a une
ça
ingéniosité.
veut dire que, oui, mais ça. Personne ne dit que mon cher ami le savait. Il y a une école de prophètes, mais là, je pense qu'il y a des gens qui sont devenus prophètes sans avoir passé par ces écoles. Ils sont devenus prophètes parce qu'ils ont servi quelqu'un qui était prophète et que Hachem a décidé qu'ils allaient être prophètes. Le prophète Shmuel, il n'était pas à l'école des prophètes. A priori, il était prophète. Hachem a décidé qu'il allait devenir prophète. Je ne sais pas comment ça s'est décidé. Et donc, après Moshe, le fait de produire des signes, des otot, c'est un critère qui va être utilisé. Pas tout seul, mais c'en est un. Alors le fait, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu lui-même, après que il ait montré des signes, pourquoi est-ce que il a su qu'il n'allait pas le croire complètement? Comme vous savez, la Torah ne dit que Vayamin ou Bemoshe, Eved Hashem, la Torah ne le dit qu'après le Kriyat Yam Souf. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte guidés par Moshe Rabbeinu, un Moshe Rabbeinu auquel ils ne faisaient pas complètement confiance. Ici, il y a un certain Yesod, un fondement, un grand fondement du clan d'Israël, qui intègre la sortie d'Égypte et le matin de Torah. Il y a une dracha de Chazal sur Kohelet qui dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu est Podé Israël. Podé Israël, c'est-à-dire littéralement, ça veut dire il rachète Israël. Une des façons de sortir les Bnei Israël d'Égypte, ça a été de d'être podé, de les racheter en quelque sorte. Et alors, la Drasha, elle dit que chez Akadosh Baruch Hu, podé Israël ou nivdé imahem. Lui aussi, il se rachète lui-même en même temps qu'eux. Chez Nehemar, Alchu Elokim livdot lo l'am, v'lasum lo shem, etc. Asher padita Lecha mimitzrayim goyim ve'elokav. C'est-à-dire, Hazal disent, ça c'est un passouk dans le Shmuel, que, comme si Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a été racheté en Égypte. On le voit quand il dit au Bnei Israël, Atem Edaï, Vaanikel. Vous êtes mes témoins et moi je suis Dieu. Et alors, ça c'est un passage dans Yeshaya. Et Chazal disent, Kesheen Atem Edaï. Si vous n'êtes pas mes témoins, alors, az, kevayachol, si on peut parler comme ça, anikel, en anikel, je ne suis pas Dieu si vous n'êtes pas mes témoins. À plusieurs endroits dans les drachot de Chazal, on trouve une formulation de ce genre-là. Attendez, on va voir pour l'instant, on va écouter d'abord ce que disent Chazal. Dans le Sifri, sur le passouk de la Shira, Zekeli ve'anvehu, il est mon Dieu et je vais l'embellir. Matai hu nae, quand est-ce qu'il est beau? Que chez Ani modelo, quand moi je le reconnais, alors Hachem est beau. C'est-à-dire, comment l'embellir? Ben, en le reconnaissant. Vim lav, et si je ne le reconnais pas, areu nae bishmo, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut embellir le Créateur? Alors, comment est-ce qu'on l'embellit? Etnae le fanav be mitzvot. C'est-à-dire, je vais m'embellir moi-même avec les mitzvot. C'est-à-dire, je vais m'acheter un beau loulav, je vais m'acheter un beau talit, etc. C'est-à-dire, avec ça, je montre qu'Hachem est dans le monde. Et comment est-ce qu'il s'y trouve en fait? Grâce au clan d'Israël qui ont confiance en lui. Et avec leur confiance, alors ils font exister une réalité, à savoir la réalité que Hu Itbarach Kayam Baolam. Que lui, il existe dans le monde. Il y a une notion qui s'appelle Ede Kiyum. Alors, Ede, ça veut dire, ce sont des Edim, des témoins. Alors, par exemple, quel est le rôle des témoins du mariage? Un mariage, c'est un homme qui donne quelque chose à une femme. et que cette femme accepte. Et en vérité, elle accepte, et en acceptant cela, elle lui donne l'exclusivité du mariage. Elle lui dit, je ne n'accepterai de Kiddushin de personne d'autre, puisque je les accepte maintenant de toi. À quoi servent les témoins? Si cette personne dit la même chose, la femme est d'accord, lui il est d'accord, mais il n'y a pas de témoin ou pas de témoin cachère. La femme n'est pas mekoudechet. Et le mariage n'a pas lieu, n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de kiddushin. Donc ça s'appelle, les témoins sont aidés kiyum. On pourrait regarder ça de façon un peu plus près, on ne va pas entrer complètement dans les détails, mais on dit toujours sur David HaMelech, on dit de David qu'il est Chai veKayam. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'il est Chai, ça veut dire qu'il est vivant. Vekayam, il a la durée, si on peut parler comme ça. Le kiyum, c'est un kiyum dans la durée. Vous savez bien que chez David Amer, les deux choses étaient complètement séparées. David Amer, il a mérité de naître, mais il n'avait aucune durée. C'est-à-dire, il allait naître et mourir. Il est arrivé au monde, il a salué tout le monde et il est reparti, quoi. C'est ce qui aurait, c'est comme ça que c'était comme ça. Il n'avait pas de durée. Mais c'est Adam Arichon qui lui a donné 70 ans de durée. Et donc, il a une vie qui a duré 70 ans. Donc, Kiyum, c'est assurer la durée de la chose. Assurer de la durée, c'est assurer que la chose va vraiment exister. Et des Kiyum, ce sont les témoins qui font que cette chose-là a vraiment, elle existe, elle continue d'exister. Est-ce que sa façon d'exister, par exemple, dans le mariage, c'est une façon qui se renouvelle en permanence? C'est comme si l'opération était répété en permanence ou bien que c'est fait une fois pour toutes et ça a la durée en fait. On raconte que à ce sujet-là, sur la façon d'interpréter cette durée, si vous voulez, il y avait une discussion entre Reb Chaim Soloveitchik et Reb Shimon Shkop, deux très très grands Rashi Yeshiva. Et Rav Shimon Shkob, il pensait que ça se renouvelait en permanence. Alors on dit que un jour, Reb Chaim était invité chez Rav Shimon Shkob et il a appelé la Rebetzin et il lui a dit Mazal Tov. Alors que c'était une vieille dame qui était déjà mariée depuis pas mal de temps. Il a expliqué, ton mari, il pense que le mariage, il se renouvelle en permanence. Je te dis Mazel Tov. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, c'est joli. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand Hachem dit, Atem, vous êtes mes témoins. En d'autres termes, vous me faites littéralement exister. Ça a l'air complètement paradoxal que les Bnei Israël font exister Hachem, alors que tout le monde sait que c'est Hachem qui nous donne la vie. Mais c'est ce qu'Hachem dit. S'il n'y a personne pour me reconnaître dans le monde, alors j'existe, comme ils disent, avec mon nom, quoi. Si c'est ma compagnie, c'est mon nom, quoi. C'est comme si. Alors que c'est un peu paradoxal parce que, en réalité, s'il n'y a personne, on n'a pas besoin de nom. Si vous n'avez personne, vous n'avez pas besoin de nom. En fait, Quand vous voulez vous parler à vous-même, vous n'avez pas besoin de vous interpeller avec par votre nom. C'est vrai que certains disent que c'est comme ça qu'il faut entendre Shema Israël, qu'on s'interpelle. Shema Israël, je m'appelle, moi, je suis Israël. Mais bon, ça c'est. Alors qu'est-ce qu'on dit justement à partir du moment où les gens se conduisent différemment en pensant à qu'Hachem existe et c'est pour lui quelque part, bien que lui n'ait besoin de rien et qu'on puisse rien lui donner, mais je vais m'acheter un beau talit en l'honneur d'Hachem, en l'honneur de la prière que je vais faire à Hachem, je vais m'acheter un beau talit ou je vais acheter un beau loulav pour faire la mitzvah qu'il m'a demandé de faire. Qui m'a imposé de faire, je vais acheter un beau loulav. Et donc, en faisant ça par rapport à lui, je le fais exister. À la limite, d'une certaine manière, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, si on le regarde de cette manière-là, c'est très important parce que vous le faites exister. Parce que vous avez modifié votre vie en fonction de cette personne. D'accord? Vous n'auriez pas acheté. Ces roses, si ce n'était pour cette personne. Et donc vous avez modifié, vous avez dépensé de l'argent, le cas échéant, ou même si ça ne vous a rien coûté, vous avez fabriqué quelque chose, ou vous allez dire quelque chose, vous allez modifier votre vie en fonction de la personne. Donc vous la faites exister, cette personne. Et donc quand nous, c'est ce que le Chazal nous dit, que nous faisons, on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour Hachem, on le fait exister. Comment on le fait exister? En modifiant notre façon de nous conduire, en pensant à lui, à cause de lui, si on peut parler comme ça. Et donc, ce qu'on veut dire par là, tout en haut, tout en haut des mondes, les mondes les uns sur les autres, etc. C'est là qu'il existerait, là où il existe avec lui-même. Il y a un moment où Hachem est tout seul. Avant la création du monde, il existait. Enfin, justement, c'est ça le problème. Il ne faut pas dire, et on ne peut pas dire quoi que ce soit concernant Hachem. Parce qu'il faut dire quelque chose d'Hachem pour lui-même, ben, il est complètement fermé, il a besoin de rien, on ne peut rien dire. Il n'est pas du tout accessible.
Il est en donc,
Il est en lui-même, il est avec lui-même. Tant qu'il a rien créé, ben, il est tout seul. Oui, c'est ça qu'on parle. Je parle d'avant la création. Mais quand, pour être dans le monde, il a fallu que il rachète les Bnei Israël à Paro, puisque les Bnei Israël, tant qu'ils étaient esclaves de Paro, ils travaillaient pour Paro et pas pour lui. S'ils veulent qu'ils travaillent pour lui, qu'ils le fassent exister, mais il est obligé de les racheter. Et en les rachetant, il se rachète lui-même, en fait, puisque c'est en fait grâce à cela que lui, il existe aussi. Donc lui aussi, il est sorti de cet incognito, de cette absence dans laquelle il était. Donc la sortie d'Égypte et le matin de Torah qui est l'achèvement de la sortie d'Égypte. Parce que Hachem dit, Ani yotze mitoch Mitzrayim. Je sors de l'Égypte, moi aussi, dit Hachem. Mais si il se lie pas avec le monde et dans lequel il a créé le clan d'Israël, il a racheté le clan d'Israël, ben, voilà. Il n'y a pas de témoin de son existence, en fait. Notre Emouna, notre confiance en Hachem, d'une certaine manière, c'est elle qui fait, disons, exister le Créateur dans le monde. Et donc, s'il y a une réalité qui s'appelle Triatamétim, qui s'appelle résurrection des morts, c'est parce que, comme nous le disons dans la prière de, dans la Amida, dans le Shemoneh Esrei, nous disons Nemanata la Chayot Metim. Tu es fiable, c'est-à-dire on peut te faire confiance concernant la. Concernant Triatamétim. Pourquoi? Comment on peut le faire confiance? Parce que nous faisons confiance. Nous te faisons confiance à cela. Donc, c'est par notre confiance que la chose elle-même a une réalisa- a une réalité par rapport au monde. Elle existe dans le monde. Il y a la réalité de la mort, mais il y a aussi une réalité de la résurrection qui vient de ce que nous y croyons. C'est très fort. Parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que celui qui ne croit pas à Triatamétime, ben il n'aura pas Triatamétime. Si tu crois. Si quelqu'un ne croit pas à Olam Haba, il n'aura pas à Olam Haba. D'une certaine manière, ce n'est pas qu'on le crée lui-même. On le fait exister dans notre monde. Dans notre monde. C'est ce qu'Hachem dit. C'est ça c'est ça la grande. Si vous voulez, on a dit que c'était un fondement du monde. Yetziat Mitzrayim et Matan Torah, c'est un fondement du monde. Parce que quelque part, c'est parce que cette chose-là a existé, d'accord, que ça fait exister Hachem dans le monde. Tant qu'on n'était pas là, il n'y avait personne qui s'occupait de la réalité de l'existence du monde d'Hachem dans le monde. Il était le créateur. Mais vous voyez bien que dans Aseret HaDibrot, au Sinaï, Hachem ne s'est pas présenté à Anokhi Hachem Elokecha qui a créé le monde. Il dit, je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et pas, on pourrait dire, mais pourquoi il ne se présente pas? C'est une question de Rabbi Yehuda Lévi, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne se présente pas comme le créateur du monde? C'est bien plus grand, non? Que de faire sortir un petit peuple de rien du tout d'Égypte. Alors, il y a beaucoup de réponses. Une des réponses, c'est que ça leur disait rien du tout. D'accord, on a créé le monde, franchement dit. D'accord. D'abord, il n'y avait pas de témoins. Et deuxièmement, c'est il y a très longtemps, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça change. Par contre, c'était une expérience vécue de sortir d'Égypte. Qu'il leur dit, c'est moi qui vous fais sortir. C'est moi qui vous ai fait vivre cette expérience. Mais en réalité, cette expérience-là, c'est le chidouche de cet enseignement qu'on est en train d'entendre de Rabbi Nelson Davis, que c'est ça qui fait que Hachem existe dans le monde, en fait. Sinon, il serait tout seul. Et tout seul, ben, il n'existe pas, hein, au sens habituel du terme. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de dire ni qu'Hachem existe, ni qu'Hachem n'existe pas, parce que ce sont des mots, exister, c'est des mots qui concernent les créatures et pas le créateur. D'ailleurs, il n'y a pas de mot qui soit adéquat pour le créateur, parce qu'on n'invente pas un mot pour un truc qui en plus n'existe même pas dans ce monde, mais existe dans un monde supérieur. Qu'est-ce que quoi?
Et l'homme qui découvre cela, donc c'est tout seul, il découvre, il a la foi, Hachem existe. Et puis vous tournez la page et Hachem n'existe pas.
Justement, d'abord, j'ai ni dit qu'il existe, ni qu'il n'existe pas, c'est ce que je viens de vous dire. Mais le problème, c'est est-ce que il est dans mon monde? Il est dans mon monde, si je le fais exister dans mon monde. Parce que s'il n'y a pas de témoin qu'il est dans le monde, ben et comme je vous ai dit, le mariage, il n'existe pas. Le mariage n'existe pas, donc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin. Il existe dans mon monde, ça veut dire qu'il y a un changement. La preuve, c'est que moi, voilà, moi, je me suis acheté un talit spécial pour me présenter devant lui. Et donc, je le fais exister. Quand vous allez chez quelqu'un et que vous avez modifié votre comportement pour cette personne-là, vous la faites exister dans votre monde. Jusque-là, elle existait pour elle. D'accord? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, cette personne-là, elle a un très beau château, mais elle ne sort pas de son château. Mais pour le faire sortir de son château, c'est-à-dire pour qu'il existe pour quelqu'un qui est en dehors du château, il faut que quelqu'un en dehors du château le fabrique un pont avec lui. Sinon, il n'existe pas dans ce monde. Non, ce n'est pas le temps, c'est l'homme qui crée ce pont.
Tu vas le dire alors ce pont, il y a un pont qui se crée et c'est cette relation
Il
que
se crée pas, c'est je crée le pont.
je crée le pont. Mais alors je suis dans un monde tout seul, le monde autour, c'est la rigolade.
Mais vous, Claudine, si personne ne vous parle jamais, ben vous pouvez dire que dans le monde des gens, vous n'existez pas.
Alors, le monde, c'est moi qui le crée.
Oui, le monde autour de vous, c'est vous qui le créez. Parce qu'autour de vous, il n'y a pas de monde. Ce n'est pas vous-même, c'est les gens qui vous font exister. Parce qu'ils vous téléphonent, parce qu'ils vous saluent quand vous allez dans la rue. Il y a des gens qui sont totalement invisibles. Il y a des gens qui passent une vie où ils sont totalement invisibles. Quelqu'un qui n'a pas de famille, par exemple. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas de famille. Et il n'a pas de. Il crée aucun lien ni dans son travail, ni donc, il n'a pas de crainte. À Paris, vous pouvez habiter dans un immeuble, et il y a 50 personnes, 50 familles dans l'immeuble, et vous n'échangez jamais un mot avec qui que ce soit. Parce qu'on ne se dit pas bonjour. Par exemple, dans un pays où on parle allemand, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas dire bonjour à quelqu'un. On est obligé de dire bonjour, monsieur Truc. Et donc, vous êtes obligé de lui demander son nom. Et donc, vous avez automatiquement un contact avec quelqu'un qui a un nom. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire bonjour. On ne dit pas, très peu. Sinon, vous êtes obligé de dire mein Herrn, ça veut dire monseigneur quasiment, quoi. Mais personne ne parle comme ça. Mais par contre, les gens se saluent parce que c'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on croise. On croise quelqu'un.
Monde-là, il existe là où je vais, là où je rentre. C'est comme si j'avais un appareil.
Non, c'est vous parlez toujours de je. C'est pas je. C'est pas Hachem qui se fait exister tout seul. C'est Hachem qui, en sortant les Bnei Israël, il a fabriqué des gens qui vont pouvoir témoigner de lui. Un témoin, c'est quelqu'un qui est extérieur. On n'est pas considéré comme un témoin de soi-même. Et pourquoi vous dites cependant? Je vous explique que ça vient de l'extérieur et vous dites cependant. Je vous ai dit que non, ce n'est pas comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, ça n'a aucune importance. Mais dans la discussion, ça n'a pas de sens. Je vous dis que celui qui vous fait exister, c'est celui qui peut témoigner de vous. Il peut témoigner de vous, ça veut dire, je vais vous faire exister. Comment vous faire exister? Ben, par exemple, je vais modifier ma façon pour que vous existiez dans mon monde. Et il faut que je modifie ma façon de vivre en fonction de vous, en tenant compte de vous. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des gens qui ont une fonction de domestique dans certaines familles, d'accord, qui ne sont pas vus. Les gens sont considérés comme des meubles. Ils n'existent pas. Mais en réalité, dans leur monde, le maître n'existe pas vraiment non plus, en tant que personne. Avraham Avinu, il a reconnu Hachem parce que Hachem a fait en sorte qu'il y avait la fameuse bira qui était en feu, quoi. Hachem il a organisé un feu et du coup Avraham a regardé le feu comme Moshe, il a vu le feu, il est allé. Et donc, quelque part, il est entré dans. Il a fait exister le mot Hachem pour lui. Jusque-là, il n'existait pas pour lui. Dans la mesure où je ne modifie pas mon monde à cause de toi, tu n'existes pas pour moi. Non, parce que il faut pas aller chercher pour que A existe dans le monde de B. A ne peut pas se faire exister dans le monde de B. Il faut que B le reçoive. Alors, en vérité, c'est pas complètement vrai parce que A, il peut aller faire la guerre contre B. Donc, à ce moment-là, oui, il rend la vie impossible. Alors, bon, ça, c'est l'autre façon d'exister, quoi. Fait la guerre contre la personne. Mais la guerre en question, c'est une façon de faire, mais on peut aussi empêcher l'autre d'exister par la guerre, mais il y a une autre façon d'empêcher l'autre d'exister. C'est celle que Yaakov Avinu a reprochée en quelque sorte à Hachem. Il lui a dit, Kotanti mikol hachasadim, j'existe plus, tu me couvres de cadeaux, etc. T'en fais tellement pour moi que je n'existe plus. Chazal dit, de là on apprend qu'on a besoin d'un tout petit peu d'orgueil. Mais si l'autre il me court de cadeaux, etc., j'existe plus, donc j'ai pas d'orgueil, il n'y a pas de colonne vertébrale, j'existe plus non plus, je suis complètement écrasé. Parce que de là on apprend, parce que ce verset, Kotanti mikol hachasadim, c'est le huitième verset de la huitième paracha de la Torah, dit le Gaon de Vilna, c'est ce que Chazal disent que on doit avoir un huitième d'orgueil. Parce que sinon, on ne peut pas servir Hachem. Si je n'ai pas de colonne vertébrale, je ne peux pas me tenir debout. Or, Hachem, il veut qu'on puisse se tenir debout. C'est un homme debout qu'il veut, qui éventuellement va se prosterner devant lui. Il faut qu'il puisse se tenir debout. Mais donc, a priori, ce qu'Hachem dit ici, voilà, c'est je me suis racheté moi-même de l'Égypte en même temps que je vous ai racheté. Je vous ai racheté, donc vous pouvez être mes témoins. Et si vous êtes mes témoins, alors je suis Dieu. Si vous n'êtes pas mes témoins, alors je suis Dieu pour moi-même. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'est pas Dieu, mais c'est pas ça être Dieu, quoi. Être Dieu sans sujet, être un roi sans sujet. Ça veut rien dire du tout. Donc, notre Emouna, c'est ce qui fait que le Boré Olam, le créateur du monde, est dans le monde. Ça veut dire Bien qu'il y ait une réalité qui est la mort, il y a aussi une réalité qui s'appelle Triatamétim. Qu'en réalité, il y a même maintenant une notion de Triatamétim, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait annuler la mort. Mais c'est basé sur quoi? Sur le Neeman. Neeman ata la chayot metim. C'est comme ça aussi dans la tfila, dans la prière. Le monde existe selon la Emouna par la force de la prière. La prière, elle éveille une volonté dans le monde d'en haut. Et il existe des prières où il n'y a que la réalité, il n'y a que la Emouna. Par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment une prière, mais les Shlosh Esrei Midot, les 13 mesures de Rachamim, Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Chanun. Dans cette prière-là, si vous voulez, il n'y a aucune demande. On ne demande rien à Hashem à ce moment-là. Tout ce qu'il y a, c'est la mention de ces louanges, ces 13 louanges en quelque sorte. Mais c'est ça qui génère, c'est Hachem qui l'a dit, c'est ça qui va générer une façon de gouverner le monde selon le principe de Rachum et Hanoun. Qu'est-ce que nous voulons quand nous disons ces Shlosh Esrei Midot? Alors Hachem a dit, quand Hachem a pardonné la faute du veau d'or, une des choses nouvelles qu'il nous a données, c'est qu'il nous a dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, quand Israël va fauter, tu vas désigner un shaliach tzibour, tu vas désigner un officiant qui va mettre un talit sur sa tête, et qui va réciter les Shlosh Esrei Midot. Et moi, je pardonnerai. Alors c'est assez difficile à accepter parce qu'on a un peu l'impression, ça fait tout de suite, on a l'impression du bouddhisme avec la petite manivelle etc. Mais enfin, c'est ce qui est écrit, hein, c'est ce que Hachem a dit. Ça veut dire, comme il vient de le dire ici, c'est que cette récitation-là de ces louanges va éveiller une anaga d'Hachem, une façon de gouverner le monde. Ou si vous voulez, ça va donner un nom à Hachem. Ce qu'on a dit, les noms d'Hachem sont des anagot, des façons de gouverner le monde. Ça va générer la anaga qui s'appelle Rachum v'Chanun. Hachem est Rachum et Chanoun. Et donc, quand il est Rachum et Chanoun, il pardonne. C'est ça. Il nous a dit, voilà, je vous donne accès à la volonté de Rachum et Chanoun. Vous allez générer ma volonté, si vous voulez, mon nom de Rachum et Chanoun. C'est ça qu'Hachem a donné au Bnei Israël pour qu'ils puissent vivre même dans un monde où ils ont fauté. Puisque comme on sait, pourquoi est-ce qu'il y a deux mentions du Shem Hashem dans les Shlosh Esrei Midot? Pourquoi on dit Hashem, Hashem, Kel Rachum Chanun? On dit que les deux noms divins, l'un est quand l'homme n'a pas fauté, et l'autre pour quand l'homme a fauté. Comme c'est ce nom divin qui est Mehavé et Hakol. C'est le tétragramme qui fait exister chaque chose. Alors, avec le premier nom divin, quand on a fait les Israël ont fait le veau d'or, Hachem a dit, bon, laisse-moi, je l'ai détruit, il a dit à Moshe. Pourquoi? Parce que le premier nom divin, il assurait la vie du monde. Si on ne faisait pas de faute, le ticket était valable jusqu'à la faute. Après la faute, ce ticket-là n'est plus valable. Et on a l'impression, les choses sont présentées comme s'il n'était pas prévu d'un deuxième ticket. C'est-à-dire, le deuxième ticket, c'est un nouveau monde. Qu'est-ce qu'Hachem a dit à Moshe? Laisse-moi, je détruis celui-là, j'en fais un autre avec toi. Un nouveau monde. Ça veut dire, dans le monde dans lequel les gens ont fauté, dans ce monde-là, il n'y avait pas d'autre ticket valable. Il y avait un ticket qui est valable jusqu'à la faute, après, c'est plus valable. Et le travail de Moshe Rabbeinu, ça a été d'obtenir d'Hachem qu'il valide un deuxième ticket pour le même monde, sans construire un autre monde. C'est pour ça qu'il a redonné les mêmes tables de la loi. Mais il y a quand même des grands changements, puisqu'il nous a dit comment prier pour obtenir le pardon. Il y a, dans le monde qu'Hachem a créé, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle Elyonim, niveau supérieur, et un niveau qui s'appelle Tartonim, le niveau bas. Et entre les deux, il y a une séparation. Hachem a dit, Machatzti, j'ai fait une séparation. Qu'est-ce qu'elle a comme effet, la séparation? C'est que si on n'avait pas de séparation, alors les gens qui sont dans le monde, nous, qui appartenons au monde d'en bas, on pourrait agir sur le monde d'en haut. Puisqu'il n'y a rien qui nous en empêche, il n'y a pas de séparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, qu'est-ce que nous savons? Nous savons ça. Nous savons que nous avons des mitzvot. Une certaine mitzvah, ça consiste à faire un certain geste, disons, secouer un loulav, ou faire un certain geste dans le monde. Ce geste-là, il a un impact sur le monde dans lequel je suis. Ça, c'est de la physique. Parce que quand je fais comme ça, il y a un impact. Il y a quelque chose, j'ai bougé de l'air, il y a des particules il y a une trace de ce mouvement-là sur le mur d'en face, en tout cas. N'allez pas regarder, c'est pas tellement fort. Ouais. Mais bon, il y a une trace. Mais maintenant, en vérité, ce que nous savons, on nous a enseigné, c'est qu'il y a une trace bien plus importante dans les mondes supérieurs. On ne sait même pas ce que sont ces mondes supérieurs. Mais il y a une suite de mondes les uns au-dessus des autres. Et ces mondes sont affectés par nos gestes. Mais c'est pas, mais moi, je ne sais pas ce que mon geste de loulave fait dans le monde d'en haut. Je sais qu'il fait quelque chose, mais je ne sais pas du tout s'il agit sur le monde numéro 3 ou le monde numéro 7 ou le numéro 8. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que ça a un impact. Je ne sais pas quel impact ça a. Si il n'y avait pas cette séparation, alors j'aurais accès au monde numéro 3. Et donc, si je veux obtenir un certain résultat ici, ce résultat, il dépend d'une action qui dépend du monde numéro 3, je pourrais aller directement au monde numéro 3 et agir là-bas. Si je savais ce qu'il faut, je pourrais, si je savais ce qui se passe, je saurais ce qu'il faut faire là-bas. Alors, en fait, ça, c'est quelque chose que nous n'avons plus, nous n'avons pas. On n'a pas cette possibilité-là. Mais il y a une réalité, il y a un impact, mais cet impact-là, il est lié à la mitzvah et il n'est pas lié à ma façon de faire la mitzvah de façon consciente. Je ne suis pas conscient de l'impact de mes actions à un niveau plus élevé. Je peux être si je suis suffisamment intelligent, suffisamment éveillé, je peux savoir quel impact ça peut avoir dans le monde. Par exemple, moi je ne le savais pas, mais j'ai appris, parce que Rachid nous l'a dit, que justement avec ce loulav, on gère les bons vents et les bonnes pluies. Et on éloigne les mauvais vents et pluies, et on rapproche les bons vents et les bonnes pluies. Comment ça fonctionne, j'en sais rien, mais je fais des mouvements. Je fais ce mouvement éloigné, rapproché. Éloigné, rapproché. Qu'est-ce que j'éloigne? Qu'est-ce que je rapproche? Je pouvais ne pas le savoir, mais maintenant Rachid nous a soufflé que c'est les vents et les pluies. Je pousse les mauvais, je repousse les mauvais. Je rapproche les bons. Alors, je sais l'impact dans ce monde. C'est la météo, ça s'appelle. Maintenant, bien entendu, que les bons vents et les bonnes pluies ont une correspondance, ou plus exactement une source, dans des mondes supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, un bon vent ou une bonne pluie? Je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ou je sais pratiquement jamais, mais je sais bien qu'il y a quelque chose spirituellement qui est la source de ce qui se passe concrètement dans mon monde à moi. Mais je ne peux pas y aller. Je ne sais pas où il faut aller agir directement. Il se trouve que maintenant, je sais que ça aura un impact, je ne sais pas comment ça marche. Rachid a seulement dit. C'est comme ça que tu gères. Donc ça, c'est pour le fonctionnement du monde, quelque part. Donc ça c'est la prière, elle est fabriquée, elle est avec deux parties. La prière quotidienne, peut-être 3 fois par jour. Il y a une partie centrale qui est une liste de demandes. On demande à Hachem ceci et cela, etc. Puis après, mais au début et à la fin, il y a une introduction, en quelque sorte, une salutation, des louanges de départ. Puis après, il y a le remerciement, une demande d'agrément, expression de la reconnaissance, et puis on prend congé. Alors, ces trois premières et ces trois dernières, elles sont là tout le temps. Shabbat, Yom Tov, ils sont toujours les mêmes. En semaine, on a une suite de demandes. On demande Shabbat, Yom Tov, il n'y a pas de suite de demandes. On parle de la fête ou on parle du Shabbat, c'est tout. Une seule bénédiction qui parle de la fête ou du Shabbat. Bon, c'est un petit peu différent à Rosh Hashanah, à cause du shofar, etc. Les demandes, je demande à Hachem des choses qui sont, ce n'est pas des demandes personnelles, tout est au pluriel. Je demande pour le monde. Pourquoi? Parce qu'Hachem a dit que j'étais en charge du monde. Alors je demande. Normalement, on devrait demander, on ne devrait pas nous prescrire ce qu'il faut demander, on devrait comprendre tout seul. Mais on ne comprend pas tout seul. Alors, de façon géniale, les Anshei Knesset HaGdola ont établi un noussar, une formulation des choses, dans laquelle on demande tout ce dont on a besoin. C'est les mêmes mots à trois moments de la journée, trois moments différents de la journée. C'est les mêmes mots tous les jours de l'année, enfin, tous les jours profanes, tous les jours chol, pas Shabbat, Yom Tov. Et ça, c'est les mêmes moments dans la vie de chacun, à différentes époques de sa vie. C'est les mêmes demandes dans l'histoire du clan d'Israël. Ça fait des siècles qu'on prie comme ça, et sous toutes les latitudes, etc. Donc ça veut dire, bon, il y a eu ce génie des rédacteurs de ce texte. C'est incroyable de pouvoir trouver un texte pareil. On demande, mais on ne sait pas du tout comment il faudrait, je ne sais pas, m'adresser au monde dans lequel se jouent les différentes questions dont je demande à Hachem de s'occuper. Mais ça va automatiquement. Hachem dit, voilà, vous demandez ça et on va livrer. Hachem va livrer. En fonction de ce qu'il juge nécessaire, il va juger est-ce qu'on peut accepter cette demande ou pas, ou dans quelle mesure, ou est-ce que c'est tout de suite, est-ce que c'est ici, est-ce que c'est là-bas. Tout ça, c'est Hachem qui va le gérer, mais toujours à partir du moment où je l'installe comme celui qui gère. C'est moi qui m'adresse à lui. En m'adressant à lui, je reconnais qu'il a ce pouvoir. Si je ne m'adresse jamais, si personne ne lui demande jamais, même s'il a le pouvoir, personne ne le sait. Donc, il n'existe pas son pouvoir au sens de exister. Il est ex, veut dire sort. Il sort pas. Ce pouvoir ne s'exprime pas. S'il n'y a pas de monde, vous avez bien vu que dans le récit de la création de l'œuvre du commencement de Bereshit, on dit que pourquoi les végétaux ne poussent pas de façon aérienne? Parce qu'il n'y a personne pour demander qui pousse. Personne ne demande la pluie. On sait très bien qu'on a besoin de la pluie, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'homme. L'homme n'a pas encore été créé. Et donc personne n'est là pour demander, alors ça ne pousse pas. Donc ça veut dire, bien entendu qu'Hachem peut faire pousser les choses, mais il a créé un monde dans lequel ça dépend. C'est bien sûr qu'il avait besoin de rien de tout ça, mais c'est le monde qu'il a créé comme ça. On sait bien sûr pas du tout pourquoi il a créé le monde comme ça. C'est pas notre problème. Le monde fonctionne comme ça. Donc, tant qu'il n'y a pas un homme qui demande, Hachem ne fait pas le job. Et s'il ne fait pas le job, ça veut dire que ça n'existe pas. Il n'y a pas de croissance aérienne du végétal tant que l'homme ne demande pas la pluie. Au début, lorsque le fameux serpent, le fameux Nahash, a fait fauter l'homme, alors Chazal disent qu'il a mis dans l'être humain une certaine saleté, un truc qui fait une pollution, si on peut parler comme ça, qui s'appelle Zohama. Donc, en faisant cela, ça veut dire que désormais, tout est flou. Les choses ne sont pas avec la... Il n'y a plus de vraie couleur, si vous voulez, l'image. Bon, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, mais c'est pas vraiment du vrai rouge, du vrai bleu, du vrai vert. Et pour retourner, pour retrouver une réalité claire, sans, pour enlever tout le flou, là, etc. Pardon? bien compris.
J'essaie
Non, je la vois pas. Elle est là, Shirley. Shirley, elle est déjà, elle est connectée. Elle était. Hein. Où est-ce qu'elle a passé? Oui, elle est là. Elle est à gauche. Ici. La voilà, on la voit. Liat, elle est là. Elle est entrée en fraude. Alors, Hachem a fait en sorte que pour retrouver cette clarté-là, on ne le peut que grâce à la Torah. La Torah, c'est ce qui va ramener le monde, qui peut ramener le monde à la situation qui était la sienne avant la faute, avant qu'il y ait ce flou-là. Ce safek, ces doutes. C'est pour ça que à la sortie d'Égypte, il y a une condition. La condition, c'est vous allez servir Hachem sur cette montagne. Et qu'est-ce que veut dire servir Hachem? Vous allez accepter la Torah. Si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, vous savez bien ce qui a été dit sur le fameux Yom HaShishi. Où Hachem a dit au monde, je te crée, mais ça ne sera définitif que si et lorsque les Bnei Israël auront accepté la Torah. Alors, effectivement, quand ils étaient sur le Sinaï, qu'ils ont accepté la Torah, la Zohama, elle a disparu. Et donc, retrouver une relation de confiance Hachem avec Hachem, etc. Tout ça, une Torah qui est Tmima, Torah Hachem Tmima, la Torah, elle est entière, elle n'a pas de flou, il n'y a pas de Safek. C'est clair. Mais elle est fameuse, comme on dit, dans tout ce Tehilim. Edut Hachem Ne'emana, Markimat Peti, elle rend les idiots un peu intelligents. Tout ça doit se faire avec justement de tout cœur. Entier, un cœur entier. Et c'est ce qui s'est passé au Sinaï. Il s'est dit que Hachem dit, je vais te parler. Et je vais mettre les Bnei Israël dans la situation de prophétie quasiment, pour qu'ils entendent eux aussi ce que je te dis, qu'ils aient confiance qu'effectivement je te parle. Et on dit, ça veut dire, Gambechaya en toi aussi, ils auront confiance définitivement. C'est-à-dire la clarté. Qui génère de la confiance éternelle. Alors on avait demandé pourquoi utiliser le mot Avdoun? Ce n'est pas une avoda, c'est Kabbalat HaTorah. Ici, on veut parler de l'opération qui va enlever le flou. Enlever ce fameux dofi dont parle Rambam, c'est-à-dire enlever cette zohama. C'est pour ça qu'il y a l'expression ta'abdoun, c'est un travail. Vous vous souvenez que quand Moshe est au Sneh, quand il est au buisson ardent, Il demande à Hachem, il lui demande, quel est ton nom? Hachem, vous vous souvenez, Hachem lui a dit, il a répondu comme nom, il a répondu, Eke Asher Eke, je serai qui je serai. C'est pour ça que la libération de l'Égypte, ça n'est pas seulement nous sortir d'une situation de souffrance, mais c'est un moment où vont se dévoiler les noms d'Hachem. Ici, on nous a enseigné le secret des noms d'Hachem. Et c'est ça que Hachem dit, Ani nivdeti imaem. Moi, j'ai été racheté avec eux. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim et Amatan Torah. Les choses se clarifient. D'où tu éteins ce truc ou quoi?
La résistance.
Et donc, grâce à cette clarté-là, ils vont vraiment étudier la Torah, mais le commencement, c'est Otsetiha Mimitsraïm. D'abord, il faut que je te sorte d'Égypte. Et c'est là que mon cher Rabbeinu a vu que ce n'était pas simplement l'envoyer comme un prophète. Ce n'est pas que Moshe va devenir un prophète comme vont le devenir tous les autres prophètes. Mais il y a quelque chose qui dépasse complètement la prophétie parce que ce n'est pas simplement transporter le message d'Hachem. D'accord? C'est montrer que Hachem est racheté, il s'est racheté lui aussi de l'Égypte. Et que de cette manière-là, Hachem va exister dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde une réalité qui s'appelle les noms d'Hachem. En d'autres termes, il y a dans le monde différentes Anagot, différentes façons de gouverner le monde. Mais on ne veut pas du tout qu'il soit dans le monde et qu'il reste néanmoins des sphécotes, des doutes. C'est ça la réponse à la question, en fait. Son exigence. Ta'avdun et ta'elokim à la razé. C'est-à-dire, il faut une émouna dans la Torah qui doit, disons, qui doit entrer dans le clan Israël, qui doit exister dans le clan Israël, de telle sorte qu'elle élimine tout doute. Ça doit être parfaitement clair. Torah Tachem Temima, entière. Et donc, quand Moshe Rabbeinu nous dit à Hachem, mais ça ne va pas marcher, Em lo ya'aminu li, ils ne me feront pas confiance. Alors Hachem lui montre le signe, un premier signe avec les serpents. Il lui montre ça pour lui dire, tu sais, si tu soupçonnes les Bnei Israël de ne pas te croire, de ne pas te faire confiance, alors tu ramènes le clan d'Israël à la situation du Nahash. Tu les ramènes sous l'influence du serpent, c'est-à-dire sous l'influence du doute. Parce que toi, tu les soupçonnes de douter, alors tu les fais douter en quelque sorte. Vous savez que les Bnei Noach, c'est-à-dire les descendants de Noach, ont reçu sept mitzvot, c'est-à-dire une de plus que ce qu'a reçu Adam Harishon. Adam, il avait six mitzvot. Noach a reçu une septième mitzvah qui s'appelle Ever Minachai, qui est ce fameux interdit de prélever de la viande sur un animal encore vivant. Encore, il y a encore des soubresauts, si vous voulez. Cet interdit-là, on ne pouvait pas le donner à. On ne pouvait pas vraiment le donner à Adam, parce qu'Adam, il pouvait pas manger, il pouvait pas tuer pour manger de la viande. Il pouvait manger de la viande qui était déjà, qui était morte naturellement. Alors, ils ont sept mitzvot de Bnei Noach. Alors, le Rambam écrit dans le Chot Melachim, qu'un Ben Noach, il doit faire les sept mitzvot qui sont les siennes, mais il doit le faire parce que Moshe Rabbeinu a reçu dans la Torah l'information ou voir que les Bnei Israël ont reçu. Que les Bnei Noach ont reçu ces sept mitzvot. Et si un Ben Noach, il pratique les sept mitzvot des Bnei Noach, comme on dit, mais seulement parce que il a une chaîne de transmission qui arrive juste à lui et qui lui dit, on a sept mitzvot. Son père le lui a dit, son grand-père a dit à son père, etc., jusqu'à Noach. S'il pratique les sept mitzvot de cette manière-là, pour cette raison-là, mais pas parce que elles sont écrites dans la Torah par Moshe Rabbeinu, alors on ne va pas lui donner ce statut privilégié d'un non-juif qui vit en Eretz Israël et qui va bénéficier de toutes les lois sociales qui sont pratiquées entre juifs. Et lui aussi, il va en bénéficier. S'il accomplit les mitzvot qui sont les siennes, parce qu'elles sont dans la Torah, parce qu'elles ont été données par Moshe Rabbeinu. S'il le fait d'une autre manière, ou bien parce qu'il pense que c'est intelligent, ou bien parce qu'il a une tradition qui mène, qui lui dit qu'il faut le faire, alors il n'aura pas ce statut privilégié, il sera seulement quelqu'un de bien, il s'appelle Chassidei Umot HaOlam, un peu les justes parmi les peuples, parmi les peuples, mais il ne sera pas ce qu'on appelle Ger Toshav, un étranger résident, avec les privilèges d'un étranger résident. Pourquoi cela? Parce que, bien entendu, jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y avait le Noach, c'était un prophète aussi. Oui. La prophétie du type Noach existait, bien sûr. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'était ce type de prophétie qui fonctionnait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un prophète dit, voilà, moi j'ai reçu une prophétie qui dit qu'il faut marcher à droite de la route. Si quelqu'un vient après lui et qui dit, moi j'ai une prophétie qu'il faut marcher à gauche de la route, bien la dernière prophétie va effacer la première, quoi. Simplement. La nouvelle prophétie va annuler l'ancienne. Parce que, juste parce que la prophétie du type noir, ce n'est pas une prophétie du type infaillible, quoi, si vous voulez. Ce n'est pas une prophétie qu'on ne peut pas annuler. Donc, jusqu'à Moshe Rabbeinu, les sept mitzvot étaient annulables. C'est une prophétie. Mais un nouveau prophète peut venir et dire, désormais, on est dispensé d'accomplir ces mitzvot. Il n'y en a rien à redire. Ça veut dire que le monde, les mitzvot sont fondamentales, mais ces mitzvot, elles reposent sur un socle qui n'est pas complètement stable. Il peut être détruit à tout moment. Aujourd'hui, après Moshe Rabbeinu, il y a un monde avec la Torah, alors les sept mitzvot des Bnei Noach, elles aussi, elles ont la clarté, donc la solidité qui leur est donnée par la clarté du type Moshe. C'est-à-dire que, de la même manière que Moshe, il a une prophétie d'un type différent de toutes les autres prophéties. C'est pour ça qu'on est un peu très étonné quand Myriam et Aaron s'imaginent qu'eux aussi, ils ont une prophétie du même type que celle de Moshe Rabbeinu. C'est même très, très surprenant qu'eux ne se soient pas rendus compte que leur prophétie n'a rien à voir avec celle de Moshe. C'est comme ça, c'est un sujet sur lequel il faudra peut-être réfléchir. Enfin, il faudra sûrement réfléchir, mais je ne sais pas si ça saurait le faire. Mais en tout cas, c'est comme ça. Le Rambam, par exemple, il calcule, dans les Ikarim de Rambam, il y a un Ikar qui parle de la prophétie de Moshe et un autre Ikar qui parle de la prophétie des autres prophètes. Il n'est même pas dans le même Ikar. C'est comme si c'était quelque chose de complètement différent, en particulier parce que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle a un autre nom. C'est quoi l'autre nom de la prophétie de Moshe Rabbeinu? C'est la Torah.